Europe 1. Europe 1.
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, la radio où vous écoutez le monde changer et les journalistes se castagner. Chaque après-midi, ils s'affrontent dans l'arène surchauffée du studio Coluche au service de votre culture G. Celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus étonnant ou le plus instructif repartira d'ici coiffé de la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour. Ah, je l'ai retrouvée. Et donc, autant vous dire qu'entre cette couronne en plastique et le masque obligatoire, le gagnant va vraiment fière allure en sortant d'Europe 1 tout à l'heure. Dans toute compétition qui se respecte, il y a évidemment une mascotte, Maître Capello jadis dans Des chiffres et des lettres, La Boule dans Fort Boyard et Varrock dans L'équipée sauvage.
Je ne sais pas du tout comment je dois le prendre.
C'est assez flatteur, c'est un petit lancement comme ça que je pensais à vous.
Ouais.
Je me suis dit, voilà. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé sur les écrans.
Bonjour
ce soir.
Mathieu, bonjour à tous.
Mais je me dois désormais de le préciser quand même à l'invité. Quand vous vous adressez à Eva, n'hésitez pas à parler plus fort, car hélas, elle n'ouïe plus aussi bien qu'avant. Le poids des ans, certainement, tous des tracts. En plus, avec le retour de la pluie, elle a vraiment pas le moral. C'est vrai quand même, c'est quand même bête qu'il fasse pas beau au mois de juin.
Il faut mettre un anneau dans son vagin ?
Non, je dis, c'est bête qu'il ne fasse pas beau au mois de juin. Bref, excusez-la. Eva, ressaisissez-vous et accueillons notre invitée du jour, la romancière, scénariste et réalisatrice Amanda Steff. Bonjour Amanda.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi pour nous parler de votre dernier roman, Lettre d'amour sans le dire, qui est clairement un des plus attendus de cette rentrée littéraire post-confinement. J'imagine que ça doit vous réjouir et vous rassurer. Est-ce que vous êtes du style à lire tous les articles, toutes les critiques quand un livre sort, ou bien vous essayez de vous tenir à distance de tout ça ?
Non, je lis tout, mais en fait, je suis très touchée surtout par les gens maintenant qui ont des blogs, qui étaient quelque chose de mineur avant, et ça prend de plus en plus de place parce qu'il y a quelque chose de moins politisé, on va dire, que les articles de journaux qui ont déjà des a priori, des préférences. Et je pense qu'il y a quelque chose de très proche d'un vrai lectorat. Et donc, j'ai tendance maintenant à lire beaucoup les
blogs. Vous passez du temps, même sur des blogs, pour voir un peu ce qu'on dit.
Sur les réseaux sociaux, quand je lis, oui, bien sûr, c'est touchant.
Alors, Amanda Steff, on va parler de votre nouveau roman. Vous allez nous dire aussi comment vous avez vécu ces étranges derniers mois. Juste le temps de vous présenter nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. La première est aussi la première du championnat.
Anne
Le Gall, notre expert environnement, est la preuve vivante qu'on peut remporter une compétition sans être une enflure égocentrée.
C'est
sa
vrai.
Gentillesse est en effet légendaire. Une gentillesse qui ne s'émousse jamais, même au contact de la connerie. Par exemple, quand elle essaye de m'appeler.
Ouais, c'est Anne pour Mathieu Noël.
Oui, on se rappelle dans une heure.
C'est pas grave.
Ben non, c'est pas grave. Bonjour Anne Legal. Vous êtes si gentille.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, Anne,
qu'est-ce que c'est que ce message ?
Pourquoi il fait si chaud ? Alors, pas aujourd'hui spécifiquement, parce qu'il y a un peu
voilà,
de
pluie
sur Paris. Mais il a fait très très chaud ces derniers temps. Eva doit mettre 4 fois du déo par jour. Comment on fait ? Que nous réserve l'été ?
Gratuit,
est-ce que l'été,
quoi.
C'est complètement gratuit.
Oui.
Est-ce que l'été va ressembler à ce printemps qu'on est en train de vivre ?
Eh ben voilà, je vais pas vous donner la réponse tout
Comment
de suite, mais je vais vous dire juste que c'est vraiment un sujet d'actu parce que pour les météorologues, l'été démarre le 1er juin et non pas le 20. Donc d'un point de vue météorologique,
on est dans
le tout début de l'été là, et malgré la pluie, vous allez voir, il devrait normalement faire chaud sur certaines régions, je vous en dirai plus. En tout cas, Météo France vient de sortir ses prévisions saisonnières.
Votre adversaire aujourd'hui, Anne, a un profil qui devrait intéresser notre invitée Amanda Steff, puisqu'en effet, correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Lionel Gougelot est aussi un des journalistes les plus lettrés de la bande. Un goût pour les lettres qui se reflète souvent dans le choix de ses sujets.
Je vais vous présenter la confinouse. Confinouse, c'est confinement, et binouse, subtil jeu de mots.
Subtil, en effet. Bonjour Lionel Gougelot.
Salut Mathieu, bonjour à tous.
Alors, aujourd'hui, comme vous avez fini votre stock de confinouse, vous nous proposez un portrait, celui du ou de la, je ne sais pas comment on dit, première mère transgenre de France.
Ouais, je vais vous proposer une rencontre avec une belle personne. Et là, je peux vous dire que le terme n'est pas galvaudé aujourd'hui. Elle s'appelle Marie, elle a 55 ans. Elle a été élue maire de son petit village de Tilloy-les-Marchiennes dans le Nord. Donc, et elle est effectivement la première mère transgenre de France. Son histoire est actuellement en train de faire le tour du monde. Et vous allez voir, c'est une histoire positive, réconfortante et la preuve que les mentalités évoluent.
Merci Lionel, le programme est donné, l'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc Amanda Steff qui nous accompagne cet après-midi pour fêter la sortie de son nouveau roman « Lettre d'amour sans le dire » publié chez Grasset. On va bien sûr en parler en long et en large, si j'ose dire, dans cette émission. Mais avant cela, Est-ce qu'un artiste est mieux préparé, mieux équipé à vivre un confinement comme celui qu'on a vécu, parce qu'il travaille d'habitude aussi, c'est un travail assez solitaire, l'écriture, ou pas du tout, c'était aussi dur que pour n'importe qui cette période?
Je sortais de mon confinement volontaire, parce que je venais de sortir un livre, donc je n'avais pas forcément envie de retourner.
Mais c'était pas le moment, quoi. Ouais,
disons qu'on est tout le temps dans cette introspection, qu'on est tout le temps enfermé en soi, mais que ce confinement a du sens que parce que le monde autour existe, vit, tourne, et qu'on a l'impression d'en capter quelque chose. Et j'ai pas fait partie de ces artistes qui ont écrit directement sur ça. Je pense que j'ai fait partie des gens qui l'ont vécu. Et ça donnera sûrement quelque chose. Mais
ah oui, vous y pensez déjà ?
Non, pas directement, mais je veux dire, le monde a changé. Il y a eu le pire et le meilleur de l'humanité qui est ressorti de ce confinement. À la fois, je pense, un sentiment de lien avec le reste de l'humanité, du fait que chaque mouvement a influencé son voisin. Et en même temps, des choses qui m'ont vraiment choquée, les dénonciations d'infirmières.
Oui, les lettres dans lesquelles j'ai scellé, là. Ouais. Mon Dieu.
Donc oui, je ne pense pas que les gens aient changé, l'humanité ait changé, mais il y a forcément des choses, des impacts sur nos vies, sur nos désirs, sur nos envies, sur ce rapport à la vie courte et donc à l'envie d'en profiter.
Lettre d'amour sans le dire, c'est le titre de son dernier roman qui, vous allez voir, va vous faire du bien, va vous faire voyager aussi d'une certaine manière. Amanda Sterz est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Elle est un peu notre sœur sourire. L'abbé Bitard, son confesseur à la paroisse Notre-Dame d'Issy-les-Moulineaux, pourrait vous le confirmer. Anne Le Gall est toujours de bonne humeur, patiente, compréhensive, sauf au 42e jour du confinement quand ses deux enfants ont entamé leur 28e bataille de purée au déjeuner. Là quand même, elle a craqué.
Crache ou postillonne sur tes couverts directement.
Oui, même quand elle craque, c'est pas très violent. Hein. C'est une colère assez rentrée. Heureusement, tout ça est derrière nous. Enfin, pas pour les seniors qui, après avoir dû échapper au virus, vont peut-être devoir se préparer à affronter une canicule. Après un printemps aux températures anormalement élevées, l'été sera-t-il chaud lui aussi ?
Ah non !
C'est renseigné pour vous, à tout de suite.
La musique facile.
L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Amanda Sterz est notre invitée arbitre cet après-midi pour la sortie d'un nouveau roman qui a énormément plu à Eva puisqu'il s'intitule « Lettre d'amour sans le dire », ce qui est un tragique écho au sentiment qu'elle nourrit pour moi depuis maintenant près de 7 ans. Vous pouvez cracher le morceau, Eva, non ?
Jamais,
d'accord, très bien, j'ai tenté ma chance. On continue de parler de ce roman, mais l'heure est venue d'écouter notre première concurrente du jour, actuelle leader du classement européen des meilleurs journalistes, Anne Le Gall, une journaliste irréprochable, mais également une mère irréprochable qui a su occuper ses enfants durant le confinement grâce à une créativité hors normes, même si nul doute que son meilleur conseil restera certainement.
Première activité pour occuper les enfants, c'est de leur faire laver les vitres.
De leur faire laver les vitres. Vous avez
ça,
des enfants,
c'était très sérieux, Amanda. Malheureusement, pas pensé, mais maintenant...
Ou heureusement.
Non, je me dis ça.
Ah bah, si vous voulez que les enfants chialent et que les vitres soient sales, c'est à mon avis le combo ultime, c'est de leur faire laver les vitres, effectivement.
Elles l'ont fait, vos filles, Anne.
Mais bien sûr.
Oh là là, mon Dieu.
Anne, aujourd'hui, vous nous parlez météo, vous transformez un peu en Laurent Cabrol. Il a fait très très chaud en ce printemps et on se demande tous si l'été va être à l'avenant.
Voilà, il a fait chaud et c'était pas juste une impression, cette douceur, cette chaleur depuis le mois de mars-avril. C'était pas une vue de l'esprit. Les mois d'avril et mai 2020 font bel et bien partie des printemps les plus chauds jamais vécus en France, avec des températures supérieures de 1,7 degrés aux moyennes saisonnières. C'est bien simple, il n'y a qu'en 2011 qu'il avait fait plus chaud en France, avec des températures en moyenne supérieures de 2 degrés. Et cette situation actuelle s'explique notamment par un phénomène de circulation des masses d'air atmosphériques. C'est ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu des vents d'ouest plus forts ces dernières semaines. Donc des vents océaniques qui ont adouci les températures.
Mais est-ce que c'est une situation surprenante ?
Alors oui et non, ce mouvement n'est pas nouveau, ce mouvement d'air océanique n'est pas nouveau, mais c'est conséquent. Sont amplifiées par le réchauffement climatique. Malheureusement, ça avait été bien modélisé par les climatologues. Ce qui est plus surprenant cette année, c'est l'enchaînement de températures records. En fait, ça fait 12 mois qu'on enchaîne les records en France. Et ça, les climatologues ne s'y attendaient pas si tôt dans le siècle. Donc ça, c'est assez surprenant.
Et donc, canicule cet été.
Alors,
c'est mathématique.
Alors, printemps chaud ne veut pas forcément dire été chaud, mais il se trouve que cette année, oui, ce sera a priori le cas. Il y aura un été chaud. Selon Météo France, les températures devraient être plus élevées que la normale dans le sud et dans l'est de la France. Alors, non, c'est à cause notamment de la présence de l'anticyclone des Açores, vous savez, qui va bloquer les masses d'air chaud.
J'ai jamais compris ce que c'était cet anticyclone des Açores, donc il parle tout le temps dans la météo.
C'est un phénomène de pression qui fait que les masses restent stationnées au même endroit. Donc au-dessus de la France. Donc là, si c'est de l'air chaud, ça restera au-dessus de la France.
Et qu'est-ce qu'il reste ? Il tourbillonne au-dessus de la France ?
Il reste, il stagne. Et en plus, cet air chaud pourrait être encore accentué par la sécheresse des sols. En fait, donc on s'attend vraiment à un été chaud dans le sud et dans l'est de la France.
Et c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un peu de fraîcheur dans le nord ou pas ?
Alors, selon les prévisions, la façade atlantique et le nord devraient être restés dans la moyenne, en fait, hein, être un peu épargnés par cette vague de chaleur. Le problème, c'est que à ce stade, on peut pas encore anticiper la frontière. On ne sait pas si Lionel Gougelot devra acheter ou pas un ventilateur. Est-ce que ça ira jusqu'à lui ou est-ce que ça restera
un petit peu en
dessous ? De
toute façon, Lionel, il a la confinouse pour se rafraîchir. Il n'y a pas besoin de ventilateur. Hein.
Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que au-delà de nos frontières, c'est tout le sud de l'Europe qui risque d'être concerné par la chaleur cet été. On s'attend aussi malheureusement à des records de fonte de glace en Arctique. Et ce qui est déjà acquis, c'est que cette année 2020 devrait figurer parmi les 5 années les plus chaudes depuis qu'on prend des mesures, donc au niveau planétaire. Et ce n'est qu'un début. Il faut bien garder en tête qu'avec le réchauffement climatique, ces épisodes, ces vagues de chaleur devraient être deux fois plus nombreux d'ici 2050.
Donc, on peut déjà conseiller nos auditeurs d'acheter un petit climatiseur.
Voilà,
parce que souvent, les gens se ruent sur les climatiseurs.
Ventilateur,
c'est pas très bon.
Ventilateur, c'est mieux. Oui, pardon, la clim. C'est vrai que, attention au CO2. C'est vrai que vous êtes l'expert environnement. Dans Europe 1, j'avais oublié ce côté écolo.
Un petit ventilateur, voilà, on s'humidifie la peau, c'est parfait.
Un petit ventilateur qui ne sert à rien, on est devant comme ça. Oui, je connais.
Vous prenez un bac à glaçons et vous mettez votre bac à glaçons devant votre ventilateur et ça marche hyper bien. Mais bien sûr.
Eh bien, c'est noté. Merci pour ces conseils. Je pense qu'on va avoir beaucoup de retours, à mon avis, sur ce conseil. Anne Legal. Et si jamais on a besoin d'idées cadeaux à fabriquer pour la fête des mères, je sais que vous en avez en stock.
Recyclons les rouleaux de papier toilette.
Oui, oui.
On peut en faire des rondes serviettes, des instruments de musique, des pots de fleurs.
Oui, donc faites-moi penser à ne pas vous appeler. Voilà,
Europe 1.
À suivre, on va se plonger dans Lettres d'amour sans le dire, le tout nouveau roman de notre invitée Amanda Sterz. Alors, parfois avec les invités, on croit les cerner, on espère des choses, on a le sentiment de se découvrir des affinités, puis on est déçu, comme avec Olivia Ruizière.
Alors, je suis un peu portée sur la chose. La diététique, le bio.
Alors, j'espère pas en fait déçu aujourd'hui, Amanda Sterz. J'espère que vous aimez le bio autant que moi. On vérifie ça juste après Sarcelor, Porte de Flore sur Europe 1.
My part.
de Flore, probablement une ode au plan A4, Eva. C'était Starseller sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour rentrer à la maison, le sourire aux lèvres et les neurones revitalisés grâce à la féroce compétition que se livrent nos journalistes sous l'œil d'un invité arbitre qui a parfois d'ailleurs du mal à comprendre comment on peut se noter entre collègues.
C'est atroce de se noter entre amis.
Mais on n'est pas amis.
Oui, c'était ça au fond, le secret. Oui. Aujourd'hui, on est ravis de passer l'après-midi avec une de nos auteurs les plus célèbres, Amanda Sterz. Vous publiez Lettre d'amour sans le dire chez Grasset. Comment vous définiriez ce roman? Est-ce que c'est une réflexion sur l'amour, sur le temps qui passe, la sensualité, le désir, la difficulté parfois à verbaliser ce désir qu'on rencontre tous?
Je pense que c'est un livre qui parle de la fin de la peur d'aimer. C'est une femme qui s'est mise entre parenthèses pendant des années, qui a vécu beaucoup de traumas. Ça nous est toutes et à tous arrivé. Et qui décide de plus prendre le risque de tomber amoureuse. Et un jour, ça lui tombe dessus. Et c'est un livre sur le retour de l'émerveillement amoureux dans une vie.
Alors Alice, 48 ans, prof de lettres à la retraite, elle est native de Cambrai. Une vie qui semble assez terne jusqu'au jour où, ayant fait halte dans un salon de thé, Alice est révélée à elle-même par un masseur japonais d'une grande délicatesse qui la réconcilie avec son corps et lui fait entrevoir soudain la possibilité du bonheur. C'est une sorte de révélation, d'épiphanie, cette rencontre.
Oui, ça passe par le corps, mais il y a une émotion où d'un coup, il lui touche les épaules et elle se souvient qu'elle a un corps, elle qui a voulu renoncer, qui a voulu le mettre de côté. Et c'est par l'émotion physique que l'émotion amoureuse va renaître.
Il y a une phrase magnifique, elle dit, parce qu'elle se met à pleurer évidemment après ce premier massage, elle dit « ce n'était ni du chagrin, ni même une émotion, je libérais simplement de la vie, je me remettais en marche ». Comment vous est venue l'idée de ce roman ?
J'étais à New York il y a peut-être 7 ans maintenant, ouais, 7 ans. J'étais en train d'enquêter sur la Turine de Newton, dont j'ai fait un essai
maternelle.
Après.
Ouais. Mmh.
Et donc, quelque chose de très violent. Ça faisait 2 semaines que je voyais des victimes, que j'ai fait passer mon permis de port d'armes. Enfin, j'étais vraiment dans un truc qui neigeait, un truc vraiment chouette. j'étais à New York juste avant de reprendre l'avion et je suis allée faire quelque chose pour moi, pour sortir de cette violence. Et on me faisait les ongles dans une petite boutique avec des dames chinoises très gentilles. Et il y a quelqu'un qui s'est mis à me masser les épaules. Et moi qui étais dans un état d'écrivain où je n'étais qu'un cerveau, je ne pensais plus du tout que j'avais un corps, ça m'a réveillée et j'étais à un moment de ma vie où je n'avais pas d'histoire d'amour, où j'avais rejeté ça pour ne pas souffrir, dans le même état que ce personnage. Et à ce moment-là, par la fenêtre, j'ai vu passer une dame d'un certain âge et je me suis dit, est-ce qu'il y a un jour où on ne nous touche plus, où on n'a plus de contact physique, où on rêverait d'un câlin ou quelque chose peut transformer nos vies. Et je me suis dit d'abord que moi, il fallait que je renaisse à la vie, mais aussi qu'il y avait une histoire dedans, qu'il y avait un roman. Et à force de parler à des femmes, et surtout, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus large qu'une histoire d'âge. Et j'ai rencontré des femmes sublimes, jeunes, qui avaient décidé de plus prendre le risque d'aimer. Et je pensais que c'était une sorte de bouteilles à la mer pour elles, de signes pour leur dire ça peut vous retomber dessus. Et sûrement pour moi aussi, c'était pour me convaincre qu'on avait le droit d'y croire encore.
Mais quelle est votre conclusion personnelle là-dessus? Parce que c'est peut-être encore plus risqué de ne pas prendre le risque d'aimer.
Bien sûr, mais entre le dire et tomber plusieurs fois, c'est comme croire en Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre, de la foi. C'est-à-dire qu'on ne croit plus au Père Noël une fois qu'on nous explique qu'il n'existe pas. Pourquoi on continuerait à croire en l'amour? Et pourtant, il y a cet émerveillement qui revient et c'est la magie de l'humanité.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, comme l'héroïne, de tomber amoureux de quelqu'un, mais de ne pas le verbaliser, de ne jamais lui dire, de ne jamais avoir l'occasion de lui dire?
Et de fantasmer un peu aussi la rencontre.
En fait, le livre s'appelle comme ça parce qu'au Japon, on ne dit pas « je t'aime », on dit « il y a de l'amour dans l'air ». Et comme
ils
si ça nous
forts,
tombait
Japonais.
Dessus et que ce n'était pas nous qui choisissions. Donc il y avait quelque chose de l'ordre du destin. Et donc je pense qu'il y a plein de façons de dire aux gens qu'on les aime sans le prononcer. Et souvent dans les silences, il y a plus d'amour que dans les mots.
Eva a frôlé l'orgasme 7 fois en relisant les chapitres avec le master japonais. Lettre d'amour sans le dire est indéniablement un roman efficace. Amanda Sterz reste avec nous.
Europe 1.
À suivre, lui, il ne sait pas masser, il ne parle pas japonais, mais il sait s'y prendre avec les femmes. Lors d'un premier dîner en tête-à-tête, il le sait, il ne faut pas regarder à la dépense.
Double ration de frites pour tout le monde.
Lionel Gougelot, notre lover ch'ti, est de retour. Après les frites, la bière, quelle nouvelle spécialité du Nord va-t-il nous présenter? Aucune, puisqu'il va vous parler du premier maire transgenre de France.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, Amanda Sterz est avec nous pour évoquer son nouveau roman « Lettre d'amour sans le dire » publié chez Grasset. Alice, votre héroïne, n'a connu jusqu'alors, on le disait, que des histoires d'amour malheureuses avec des hommes qui ne la respectaient pas vraiment. Elle est un peu échaudée, on en a parlé. Elle dit alors « J'ai toujours préféré le confort du fantasme au risque de la vie ». Est-ce que vous pensez qu'on est nombreux à faire ce choix un peu timoré?
Je pense que beaucoup plus qu'on ne le pense. Et en fait, il y a un problème avec le lien aujourd'hui. C'est très dur de rencontrer des gens. Les gens se parlent de moins en moins. Avec les réseaux sociaux, on a une impression de proximité. Mais en fait, il y a de moins en moins de contact. Je pense que même physiquement, d'ailleurs, ce qui se passe, le virus va nous apprendre à se tenir à distance. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup plus d'histoires fantasmées aujourd'hui, à l'heure où on devrait pouvoir être plus libre qu'il y en avait avant.
On a l'impression que vous êtes confidente de vos amis, que vous avez beaucoup de gens qui se livrent à vous. Vous avez un tel sens de la psychologie.
Ah, je ne sais pas si c'est de la psychologie, mais j'ai de l'empathie. Je pense que les gens sentent que je ne les juge pas. Et d'ailleurs, je fais la même chose avec mes personnages. J'ai des personnages...
C'est ce que vous demander. Ouais. Oui. On sent une empathie envers cette femme que vous décrivez dans le livre.
Mais tous mes personnages, même qu'ils soient cabossés, qui aient l'air cruel, j'essaie toujours de comprendre ce qui les a menés là. Et donc, je leur invente un passé. C'est sans doute le fait d'avoir eu un père psy freudien qui pense que tout est défini à l'enfance. Je leur invente des histoires d'enfance qui permet d'expliquer ce qu'ils deviennent, ce qu'ils sont incapables de devenir.
Est-ce que c'est vrai que vous jouez les marieuses parfois dans la vie?
Alors j'essaye, mais je suis hyper nulle. Mais j'ai fait, je pense, les pires tentatives de couple, mais c'est assez drôle. Mais vraiment, j'ai des trucs où je dis, mais pourquoi j'y ai pensé? Et parfois c'est l'inverse, et parfois je fais des couples où je vois que ce serait magnifique, mais les gens parfois reproduisent leurs erreurs et n'ouvre pas les yeux sur quelqu'un qui serait parfait pour eux. Et peut-être qu'il faudrait que je fasse des mariages forcés, en fait.
Bah, oui, voilà. C'est ça. Les mariages, nous, ça marche pas. Personnellement, j'ai toujours trouvé ça embarrassant. Vouer l'échec. 7 ans que la direction d'Europe 1 essaye de me maquer avec Eva.
C'est quelle horreur.
Faut jamais dire Fontaine, vous savez. La compétition continue dans l'équipe est sauvage avec l'entrée en piste d'un homme du Nord. Lionel Gougelot, notre correspondant à Lille, déjoue semaine après semaine tous les clichés sur le Nord en nous parlant tantôt de la surproduction de frites, tantôt de l'arôme exceptionnel de la confinouse, la bière du confinement. Ce jour-là d'ailleurs, il s'était même assoupi en pleine émission.
Je sens que notre premier concurrent du jour, Lionel Gougelot, va prolonger un petit peu votre rêve, Eva.
Lionel, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, pardon, Lionel, il est déjà bourré à la confinouse.
Alors, aujourd'hui, vous êtes avec nous, vous êtes réveillé, Lionel.
Oui, tout va bien.
Ouais. Vous nous dressez le portrait d'un maire pas comme les autres, d'une mère pas comme les autres.
Oui, elle s'appelle Marie Co. Elle a été élue le mois dernier maire du petit village de Tilloy-les-Marchiennes. C'est près de Valenciennes et c'est dans le Nord, donc. Et elle est à ce jour, effectivement, la première femme transgenre accédée au poste de maire. Elle a 55 ans, elle est ingénieure, spécialiste des questions agricoles. Alors, je ne vais pas vous raconter son parcours personnel, ce qui fait qu'elle a changé d'identité. En fait, ce qui est intéressant à l'heure où on se parle, c'est que cette élection d'une femme transgenre suscite depuis quelques jours la curiosité des médias du monde entier avec un engouement incroyable.
Avec quel type alors de réaction, Lionel?
Alors, il y a forcément, vous l'imaginez, il y a des messages de personnes LGBT qui y voient dans cette élection un signe d'espoir, d'évolution des mentalités. Mais globalement, il y a beaucoup de bienveillance et Marie, que j'ai rencontrée hier soir, n'en revient toujours pas.
Je reçois des messages de toute la planète, des gens qui me félicitent. Pour eux, c'est vraiment un espoir, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Alors forcément, dans les pays peut-être les moins ouverts, ça apparaît peut-être incroyable de voir que quelqu'un qui est LGBT puisse être élu.
Alors, Marie a été élue dans son petit village, 500 habitants.
Son changement de sexe n'a pas suscité de réserve parmi les électeurs, donc
non, aucune, aucune. Alors, sans doute le signe d'une évolution des mentalités. Il faut dire qu'elle habite ici depuis 20 ans et elle s'est lancée dans la bataille électorale. C'était pour réveiller le village avec un programme en matière d'écologie, de lien social. Les habitants, en fait, dans ce petit village, voulaient du changement. Ils ont été servis. Marie était la bonne candidate, mais sans brandir un quelconque étendard militant de la cause LGBT.
J'ai jamais été une personne militante, mais je pense qu'un discours justement de normalité peut-être faire plus avancer qu'un discours revendicatif. Quand les gens sont trop revendicatifs, on dit ouais, bon, c'est un lobby, ils se battent, ils mettent la barre haute. Tandis que là, je pense que justement, si je peux avoir un discours posé, calme, républicain, je dirais même, là, on dit ah, au final, c'est des gens comme tout le monde.
Alors voilà, en fait, le plus dur commence hein, pour Madame Le Maire. Maintenant, elle ne manque pas de projet. Elle va commencer par lancer une grande consultation citoyenne pour fixer la feuille de route du village sur les questions d'urbanisme, de solidarité, de fracture numérique. Et puis, il y a une autre grande question aussi à laquelle elle va s'atteler, c'est réconcilier environnement et agriculture. Là aussi, il y a du pain sur la planche.
Ouais. Ouais. Effectivement. Ouais. Mais ce que ça nous montre, cette histoire, je trouve, le fait que ça soit dans un petit village de 500 habitants, c'est comme un petit laboratoire pour nous montrer qu'on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Puisque, visiblement, Marie, elle est très... Elle est là depuis 20 ans.
Ça fait 20 ans qu'il la connaît.
Donc, on a peur de ce qu'on connaît pas. Marie, on la connaît, il n'y a pas de problème, mais la question ne se pose pas. Ben, c'est une belle histoire.
C'est une héroïne de roman, non, Amanda Serres ?
C'est pas mal.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, de film aussi, je pense que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de représentation des minorités. Et qu'aujourd'hui, il faut pouvoir montrer. On parle beaucoup de racisme en ce moment. Par exemple, si on pouvait donner à des comédiens noirs des rôles et que ce ne soit pas précisé qu'ils soient noirs sur le scénario, juste parce que ce sont des bons acteurs, déjà on ferait un énorme pas et c'est nécessaire. Je pense qu'il y a besoin pour les enfants de représentation sociale qui les réconcilie avec leur image et avec surtout la possibilité de devenir quelque chose d'autre que ce qu'on a prédéfini. Et c'était la beauté de l'élection d'Obama, qu'on aime ou pas sa politique, c'est qu'il disait à des enfants noirs américains, vous pouvez devenir président de la République. Et on a besoin de ça grandement en France.
Merci beaucoup Lionel Gougelot. Des frites, des binous, des transgenres. Votre ligne éditoriale ressemble à un camoulox, mais c'est pour ça aussi qu'on vous aime. C'est le moment préféré des plus pervers d'entre vous. Ce moment délectable où Eva Rock affronte l'invité sur un quiz de Culture G. C'est diablement bon. Et Anne, vous qui êtes si gentille, vous risquez de défaillir si je vous révèle qu'en fait, bien souvent, le quiz est truqué pour que l'invité l'emporte quoi qu'il arrive. Et le plus beau, c'est que vous n'oserez jamais me dire dans les yeux ce que vous pensez vraiment de moi.
Mais bien sûr, va te faire foutre.
On va tout de suite pour le quiz.
C'est dit.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Amanda Serres est avec nous en studio cet après-midi pour évoquer son dernier roman paru hier chez Grasset, Lettres d'amour sans le dire. On continue d'en parler, mais il n'y a pas que des moments réjouissants dans cette émission, il y a aussi le quiz. Face à vous, Amanda, une femme qui a connu son heure de gloire en remportant le quiz d'hier face à Olivia Ruiz, peut-elle rééditer l'exploit face à vous? C'est ce que nous allons voir tout de suite, c'est le quiz. Alors Amanda, vous êtes la reine de l'écriture, on vous doit des romans, des chansons, des films, des téléfilms, des pièces de théâtre, des livres. Bref, nous allons faire un quiz sur les magazines, ce qui n'a rien à voir. Je vous donne des titres de magazines, vous me dites s'ils existent ou pas. C'est parti. Eva, si je vous dis Crémation Magazine, vraie ou fausse revue?
Vous ne pouviez pas me trouver une autre question que ça, quoi, franchement.
J'adore cette petite musique derrière, ce petit tapis. Plus, c'est très Crémation Magazine.
C'est très Crémation Magazine.
Peut-être même Crémation Party.
Bah, je dis oui.
Vous dites oui. Mais il y a un magazine, des types qui ont fait un magazine avec les différentes comparatives de crémation,
c'est horrible,
crémation rapide, crémation lente.
Non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais thermostat.
Qu'est-ce que vous racontez, Eva? Thermostat. Mais Eva, enfin.
Eh bien, je dis oui.
Bonne réponse. Bonne réponse, c'est la revue trimestrielle référence des crématistes, puisqu'apparemment
oui,
c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
12 euros pour un an, c'est assez avantageux, ça comprend 4 numéros.
Oh, quelle horreur! J'imagine ce qu'il y a dedans,
c'est ma bonne.
Moi je le savais en fait, je suis passé l'autre jour devant un bâtiment, c'est à côté de chez moi, c'est dans le 10e, et j'ai pris en photo crémation, la Fédération Française de Crémation.
Ah bah oui, non mais oui.
Fédération Française de Crémation, ça c'est un beau hobby. J'ai bien compris, Eva. Amanda, si je vous dis Gaucher Magazine, vrai ou faux magazine?
Alors je pense que c'est vrai que c'est parce que mon frère qui fait de la guitare et qui est gaucher, je pense qu'il a eu ce magazine.
Est-ce que vous êtes bien sûr de votre réponse, Amanda?
Non.
C'est une bonne réponse, c'est pas, ça n'existe pas. Il y a des magazines, il y a des guitares pour gaucher, ouais, mais pas encore.
Non, mais il y a un truc genre, il y a un truc sur les guitares avec un truc spécial pour les gauchers, mais ça doit être.
Ah, vous dites qu'il y a un magazine sur les guitares pour gaucher.
Ouais, ouais, ouais.
Ah oui, parce qu'il y a des guitares pour gaucher, ouais, il y a peut-être un magazine sur les guitares pour gaucher. Eva Rock,
oui.
Le journal des Biloutes, le magazine de ceux qui aiment l'actu du schnorr. Vous me dites vrai ou fausse revue?
Ah non, ça c'est un truc faux, ça.
Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que vous preniez un peu de temps de réflexion.
Ouais.
Quand même, il faut un peu réfléchir par moment.
Non, non, bah, je dirais non, justement.
Bon, d'accord, bonne réponse. Dommage. Amanda Ster, si je vous dis...
En fait, là... peut-être que je commence à mettre des points parce que je comprends votre côté vicieux de vouloir m'embarquer dans les bonnes ou mauvaises réponses.
C'est bien, on est début juin.
Mais on est début juin.
Ça tombe bien de
pourtant,
je connais
depuis longtemps quand même. Hein. Voilà.
Amanda Ster, si je vous dis Pêche Record, le magazine de la pêche et du charme. Vrai ou faux magazine?
De la pêche et du charme. Ouais. On dirait le truc d'Elie et Dieudonné là quand tu pars.
Oui, c'est un peu ça.
Tu partes à la pêche.
Pêche Record.
Pêche Record.
Magazine de
donc
la pêche.
Ce serait des gens qui tiendraient des gros poissons mais nus.
Des,
c'est ça?
Des très gros poissons. Très gros poissons.
J'hésite.
Elles sont nombreuses à dire ça.
Ah ouais, c'est-à-dire que vous avez commencé par Crémation Magazine qui existe. Donc en fait, on se dit que tout est possible. Quoi.
Tout est possible. Est-ce que vous avez envie de le lire? Est-ce que vous avez envie de le tenir entre vos mains, ce magazine Pêche Record?
J'avoue qu'entre Pêche Record et Crémation Magazine, mon cœur balance. Je vais dire oui.
C'est une bonne réponse.
Oh,
c'est une bonne réponse. C'est le magazine qu'il vous faut. Si vous appréciez à la fois les gros poissons et les femmes dénudées, je vous conseille le numéro 1 avec un poster central. Elisa pêche un poisson tigre. C'est véridique.
Je suis sûre que c'est pas elle qui l'a pêché en plus.
Eva Rock, mais comment ça? Vous mettez en doute les talents de
Pêche Record. C'était Elisa. Une blague.
Eva
allez-y.
Rock, si je vous dis Spritz Magazine. Attention, j'ai le droit à magazine étranger. Vrai
ou
faux magazine?
Ah oui. Oh, je dis vrai, j'ai trop envie
vous
que ça
vrai,
existe.
Vous dites vrai, c'est faux. C'est faux. Par contre, Eva, je vous conseille O Magazine qui existe et qui vous ferait pas de mal de temps en temps. Je vais vous
c'est
abonner. O Magazine.
Ah, O Magazine.
Ah oui, je n'avais pas jamais oublié l'existence de ce liquide. C'est-à-dire que plus l'été approche, il n'y a que le rosé et le Spritz. C'est un boisson qui n'a pas beaucoup d'intérêt.
En fait, c'est la même couleur que la vodka.
Oui,
voilà, pour situer, vous voyez. O Magazine, je vous abonnerai. On finit avec celle-ci, Amanda. Un dernier, Dr Maboul Magazine, la revue des jeux de société culte. Vrai ou faux magazine?
Je dis faux.
Faux magazine, c'est une bonne réponse. C'est Amanda Ster qui remporte le quiz. Sur le fil. Oui, en fait, je rajoute des questions jusqu'à ce que l'invité gagne. C'est comme ça que ça marche. Par contre, il existe Point de Croix Attitude.
Ah bah oui.
Plein de conseils pour broder des abécédaires et avec dans le dernier
mais
numéro.
Mais sérieusement, il y en a beaucoup de magazines là-dessus.
950 motifs proposés, c'est mieux que vos activités.
Ah ça, j'ai pas essayé.
Papier toilette.
Ah, bah, essayez avec vos enfants, ça les occupera.
Vivement le prochain confinement.
Ah, oui, on a hâte. Europe 1. Ce qu'il y a de bien avec la fin du confinement, c'est qu'on n'est plus suspendu chaque soir au discours de Jean-Paul Salomon, qui était peut-être un très bon directeur de la santé, mais pas non plus Malraux, question discours.
L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. Vous pourriez la noter celle-là, parce qu'elle est bien. Ça reste encore un peu lourd, c'est vrai, mais elle est pas mal, je trouve.
Délivrés de cette contrainte, nous pouvons désormais regarder ce que bon nous semble à la télé pour nous guider. Eva Rock est là, ses conseils arrivent juste après un bon vieux Jean-Jacques Goldman. Elle a fait un bébé toute seule sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage.
Elle me téléphone quand elle est mal, quand elle peut pas dormir. Je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins, je la fais rire. Un peu comme un grand frère, un peu incestueux, quand elle veut. Puis son gamin, c'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait un bébé toute seule.
Elle a fait un bébé toute seule. Un titre qui vous parle, Amanda Sterz ?
Oui, je trouve que c'était vraiment dans l'air quand c'est sorti. Je me rappelle que je trouvais ça super que ces femmes soient célébrées. Et ma mère n'avait pas du tout fait un bébé toute seule, mais mes parents venaient divorcer. C'était pas encore très à la mode. Et j'avais l'impression que du coup...
ça légitimait
ouais,
ça.
Et puis pareil que ce qu'on se disait sur la représentation. D'un coup, ça les rendait sexy et indépendantes. C'était à peu près une femme libérée de...
Oui.
Cookie Dinger,
c'est ça ? Ouais, c'est ça.
Ouais. Et c'était un peu pour moi le même esprit. Ouais.
D'où le petit clin d'œil dans le roman.
Tout à fait.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Amanda Sterz et notre équipière sauvage cet après-midi pour fêter la sortie hier de votre dernier roman, Lettre d'amour sans le dire. À quel moment vous avez eu le titre ? Est-ce qu'il s'est imposé rapidement ? Vous avez galéré pour le trouver ? C'est une question que je me pose toujours sur les romans.
Il a presque précédé le livre.
Ah, voilà.
Ouais. C'est-à-dire que j'étais fascinée par ce fait qu'il n'y ait pas de traduction à « Je t'aime » en japonais. Et ça a vraiment commencé comme ça. Et moi, je l'ai mis en me disant on verra si un autre titre s'impose à moi. Ensuite, j'arrivais pas du tout à imaginer quelque chose d'autre. Quand je l'ai donné dans la maison d'édition, il y a eu vraiment des divergences. Il y a des gens qui adoraient, d'autres qui disaient non, peut-être pas, et qui m'ont suggéré d'autres titres. Et puis, je l'ai imposé. Voilà.
Ça, c'est intéressant pour nos auditeurs. On s'imagine souvent qu'un auteur décide par lui-même, absolument tout seul, du titre, notamment du titre de son œuvre. Ouais. Il y a même quand on est Amanda Sterz, il y a un ping-pong avec son éditeur pour savoir quel est le bon titre.
Vous imposez pas de titre. Bah, c'est-à-dire, j'ai le droit de choisir en définitive, ouais. Mais j'écoute aussi leurs conseils. Il y a des titres que j'ai échangés. Oui, ça m'est arrivé.
Changer des titres.
Ouais. Les Terres Saintes, c'était pas mon titre.
C'était quoi le titre que vous avez ?
Ça s'appelait Les Silences en papier.
C'était beau aussi.
Ah oui, c'est beau, ouais. Les Silences en papier.
Pas du tout que c'était beau aussi.
Oui, mais ça englobait peut-être pas toute l'histoire. Ouais. Et Jean-Marc Roberts, à l'époque, m'avait poussé à changer de titre et je l'ai écouté.
Alors Amanda, on dit souvent que la clé en amour, c'est de savoir communiquer dans le couple, qu'il faut oser se dire les choses. Ok, sauf qu'après 2 mois et demi de confinement à se déchirer chaque soir devant l'écran d'accueil de Netflix pour savoir ce qu'on va regarder, les choses qui sont dites ne sont pas forcément très constructives.
Ça ne va pas d'être vulgaire.
Et casse pas les couilles toi.
La psychologue Eva Rock propose une nouvelle méthode. Cessez de communiquer et regardez la télé ensemble, main dans la main. C'est possible si vous renoncez à votre libre arbitre et que vous écoutez ses conseils. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir Eva ?
On va aller sur Netflix justement pour regarder Space Force, les séries comiques se font très rares en ce moment, alors quand il y en a une qui arrive, j'aime bien me jeter dessus, je vais y arriver, voilà. Surtout quand elle est estampillée Steve Carell. Alors, petit rappel, Steve Carell, c'est lui, 40 ans, toujours puceau, nos voisins les hommes, pardon, et la géniale série The Office.
C'est l'auteur d'ailleurs de The Office qui a écrit...
Oui, exactement. Il retrouve son auteur de The Office et sur la musique des Beach Boys, Steve Carell est de retour dans la peau d'un général 4 étoiles qui est à la tête de Space Force. Alors, Space Force, c'est la 6e branche des forces armées américaines qui existe vraiment. Elle a été créée en juin 2018. Et ce général est flanqué d'un conseiller scientifique qui est incarné avec brio par John Malkovich. Et ensemble, ils sont chargés de surveiller l'espace, notamment contre les méchants chinois. Parce qu'évidemment, les États-Unis sont en guerre contre la Chine. Et alors, on va être très clair. Le général en question, il est général, il a des connaissances. Voilà, il a fait des études.
Il est un peu teubé aussi.
Il est con. Non, pardon, mais il est vraiment très, très con.
Il est délicieusement con.
Aussi con que le président des États-Unis, auquel il rend directement des comptes. Un président qui adore...
La réalité rejoint la fiction.
Exactement, parce que c'est un président qui adore tweeter et qui ne comprend rien aux enjeux scientifiques. Toute ressemblance avec Donald Trump ne serait pas fortuite, évidemment. En fait, Space Force, c'est vraiment une satire du président, du pouvoir politique américain et de la bureaucratie américaine. C'est une série très irrévérencieuse. Oh là, je vais y arriver.
Oui.
Aujourd'hui,
allez,
c'est difficile.
On est tous avec vous. Eva.
Très irrévérencieuse.
Oui, la liaison, elle est où alors ? Très irrévérencieuse.
Ouais, mais vous voyez,
une série très irrévérencieuse.
Voilà.
Wow. On l'a fait.
Elle est surtout, elle est drôle, elle est intelligente cette série et elle est rythmée par les joutes verbales entre Steve Carell et John Malkovich avec des séquences qui frôlent l'absurde évidemment, qui provoquent l'hilarité à condition évidemment que vous soyez sensible à cette forme d'humour. Il y a notamment le sauvetage d'un satellite par un astro-singe. Bah oui, ils ont envoyé un singe en orbite pour pouvoir faire des séquences rigolotes pour YouTube. Et puis, c'est ce singe-là qui va sauver le fameux satellite en perdition. Voilà, c'est à découvrir en version originale, surtout sur Netflix. Oui. Pardon, je ne vous ai pas mis d'extrait, mais parce qu'en français, c'est absolument épouvantable. Voilà. Et ça s'appelle Space Force et c'est sur Netflix.
Merci beaucoup, Eva, pour vos conseils. Très bon aujourd'hui. Europe 1. Une première manche s'achève dans l'Équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre. On parlera sociologie française et gastronomie allemande, mais bizarrement, ça ne sera pas chiant.
Ah bon ?
Enfin, c'est ce que les journalistes m'ont promis. Et puis, on continue évidemment de papoter avec la romancière Amanda Sterz qui publie un nouveau roman, Lettres d'amour sans le dire. À ce propos, petit avertissement à l'attention de nos journalistes en compétition. Évitez de vouloir absolument établir un lien forcément artificiel entre le thème de votre chronique et le livre de notre invité. Axel de Tarlet, notre expert éco, a tenté hier avec Olivia Ruiz. Ça lui a pas réussi.
Tout cela entrait en résonance avec votre merveilleux roman, Olivia, qui parlait de ces valeureuses Espagnoles et qui ont participé, sans compter leurs heures, à la relance et à...
Je vois pas le rapport.
C'est une flagornerie à deux balles.
Ah oui, d'accord.
Voilà donc, mollo sur la fausse complicité avec l'invité. L'invité n'est pas dû.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'Équipée sauvage, deux heures de délassement zygomatique, mais également de renforcement neuronal. Les plus belles plumes de la rédaction défilent au micro. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil implacable de notre invité d'honneur. Aujourd'hui, Amanda Sterz qui publie « Lettres d'amour sans le dire » chez Grasset. L'histoire d'une femme qui brûle de désir pour un homme, mais qui ne lui dit pas. Je ne sais pas, Eva, si c'est un scénario que vous avez déjà vécu, non ?
Ah si, Casimir.
Mais il n'est jamais trop tard. On peut lui passer un coup de fil, c'est mon sentiment.
Bien sûr.
Vous, Amanda Sterz, vous pensez qu'une histoire d'amour à côté de laquelle on passe, faute d'avouer ses sentiments à l'autre, c'est une histoire d'amour qui peut se rattraper plus tard ou bien c'est fichu ? Genre le train de l'amour, le train de la magie est passé, on doit faire une croix dessus.
Je pense que c'est fichu, mais que le train de la magie n'est peut-être pas passé parce qu'il y, y a ce moment justement d'amour suspendu qui reste une histoire d'amour qui marque pour toujours. C'est le thème dans La route de Madison. Ah, quand elle a la main sur la portière et qu'on se dit est-ce qu'elle va l'ouvrir ou pas cette porte et changer sa vie, le fait qu'elle ne l'ouvre pas fait que cet homme restera cette image d'homme de sa vie pour toujours. Alors peut-être que parfois les histoires d'amour qu'on ne vit pas restent plus fortes que celles qu'on vit.
J'aime vous écouter. J'ai envie de chialer, mais j'aime vous écouter. On continue de parler de ce roman, Lettres d'amour sans le dire. Juste le temps de vous présenter, Amanda, nos deux ultimes prétendants à la couronne de chroniqueur du jour. La première n'est rien moins que la chef plénipotentiaire du service Société d'Europe 1. Et oui, contractuellement, elle rentre sur God Save the Queen. Bonjour Eve Roger.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, bonjour Amanda.
Si j'ai bien compris, Eve, vous avez décidé de rebondir cet après-midi sur quelque chose que vous avez entendu hier dans l'Équipée sauvage.
Les esthéticiennes ne font plus l'interfessier apparemment.
Ah non, je ne pensais pas ça. Non. Alors non. Je pensais plutôt au fait que j'avais tiré à boulet rouge sur Eva, une fois de plus, et qu'en entendant cette boucherie, vous vous êtes dit, tiens, mais au fait, sociologiquement, ne pas aimer l'autre est-il forcément une tare, une sorte de sujet de commande pour me rassurer, quoi.
En fait, moi, j'ai décidé de m'attaquer à nos mauvaises pensées, parce que c'est sûr, on pense du mal des autres, il est imbu de lui-même, il est odieux, méchant et lâche, et je vais vous dire...
Je crois qu'elle parle de vous.
Demande à qui vous avez pensé pour cet exemple.
Donc, la question est à quoi ça sert de penser du mal des autres ? Parce que ça sert à quelque chose.
Ça a une fonction.
Absolument.
Votre rivale, Eve, est avec nous en duplex de Berlin. La journée, elle est Hélène Kohl, respectable correspondante d'Europe 1 en Allemagne, mais le soir venu, quand le Berlin by Night commence à frémir, qu'au fin fond du Kit Kat Club et du Bergheim, le claquement des accessoires en cuir contre les peaux blanchâtres de Bavarois légèrement rosies à la bière commence à retentir. On la connaît plutôt sous le pseudonyme de
Renate la Sauvage ou bien Birgit und Bier.
Il est à peine 17h, donc ça sera plutôt Hélène Kohl. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous.
C'est un sujet audacieux que vous nous proposez aujourd'hui, Hélène, une création culinaire bavaroise. C'est possible ça ?
Voilà, vous prenez une pâte à bretzel, de la saucisse, de la moutarde bavaroise sucrée et même un supplément asperge pour les gourmets et vous avez la Britza, mélange de bretzel et de pizza, imaginé pendant le confinement par deux restaurateurs du nord de la Bavière, lancé à l'occasion de la réouverture de leur auberge la semaine dernière et ça met l'Allemagne en émoi.
Je suis pas sûr qu'il faille rouvrir les frontières finalement, c'était pas mal ce confinement.
Voilà.
Alors, se donner bonne conscience tout en continuant à détester son prochain ou bien s'enfiler un mélange improbable de pizza et de bretzel, quel scénario préférez-vous ? La réponse tombera juste avant 18h, mais là tout de suite, Eva, c'est l'heure du mix.
Oui, avec Sébastien Bordenave, qui est notre producteur. On scrute les réseaux sociaux à la recherche de séquences qui reflètent un peu l'actualité du jour. Et au menu, justement, Loris Giuliano, c'est le roi du micro-trottoir. Il vient de poster une vidéo sur le confinement, en tout cas sur le déconfinement. Il y a déjà plus de 1 200 000 vues, vous allez entendre ça. Une chanson de Claude François, chantée par Lou Doyon, qui était présente à la manifestation pour Adama Traoré et contre les violences policières. Et on commence justement par le témoignage d'un manifestant recueilli par le site Loopsider.
Voir cette vidéo, la vidéo de George Floyd qui a été assassiné, c'est un homicide. Et j'avoue que j'ai eu du mal à regarder la vidéo la première fois, on me l'a envoyée. C'est long, c'est dur. Je parlais avec mes amis, je disais en fait qu'est-ce qui provoque cette haine en fait ? Qu'est-ce que les Noirs ont fait pour mériter ça ? Et j'ai pas la réponse.
La lumière du phare d'aller, cendré, fait naufrager les papillons. Demain, jamais.
Comment as-tu vécu ce confinement ?
Très mal.
Ah ouais ?
Oui, parce que toutes mes baskets, elles ont rétréci, donc du coup, je suis pas très content.
Ah, t'as grandi des pieds pendant le confinement ?
Ouais, beaucoup.
Du coup, t'avais plus de baskets ?
Et comme j'ai plein de chaussures, bah du coup, j'ai acheté pour rien.
Non.
Si.
Coup dur.
La voix de Lou Doyon dans une version quand même très originale de Claude François que je trouve absolument sublime.
C'est très beau.
Et allez voir le micro-trottoir de Loris Giuliano. Il a réussi à faire dire des choses horribles aux gens sur ce déconfinement.
Oui, les baskets qui rétrécissent. Mais moi, c'est mes pantalons qui ont rétréci.
Oui, mais ça je peux l'expliquer, ça.
Non, c'est inexplicable, c'est bizarre.
Vous avez eu les 2,5 kg de confinement, Amanda Starr ?
Oui, de chaque côté.
Moi aussi, c'est exactement le chiffre. Amanda, que ce soit dans ce livre ou dans certaines interviews, vous sous-entendez parfois qu'il est difficile pour une femme de concilier réussite sociale, pouvoir et séduction. Dans le livre, page 104, il y a cette phrase « J'aurais dû penser à être belle et hydrater ma peau au lieu de nourrir mon esprit ». Et vous, dans une récente interview, vous déclarez carrément « Une femme qui prend le pouvoir terrorise les hommes. Nous avons prouvé que nous avions les mêmes capacités, mais ils nous en veulent de réussir. Le désir masculin s'exprime davantage vers des femmes qui ont des attributs liés à la féminité, la fragilité, la beauté, parfois aussi la sottise ». Alors là, on est en juin, mais on est habillés pour l'hiver, là, nous les hommes, là.
Je pense que ce n'est pas seulement de votre faute, c'est juste qu'il y a une façon complètement différente de voir les femmes. Je pense que ma génération, c'est une génération sacrifiée, puisque c'est la génération qui prend le pouvoir, entre guillemets, et du coup fait que le monde doit se réinventer, la féminité, la masculinité doivent se réinventer. On continue, nous, à la fois demander certaines choses à des hommes et un peu tout et leur contraire. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'ils soient forts, puissants, protecteurs, et en même temps qu'ils changent les couches de nos enfants. On voudrait qu'ils nous invitent au resto, mais que quand même, ils respectent le fait qu'on gagne de l'argent. Donc, je remets aussi en question le fait que les femmes doivent réinventer. Nous, on est toujours sur les modèles anciens. On est toujours en train de comprendre comment le nouvel homme, la nouvelle femme doivent fonctionner. Et donc, je pense qu'il y a une perte de repères forte, oui.
Pour elle, la séduction est un jeu d'enfant, forcément. Lorsqu'elle dit aux hommes qu'elles sont respectivement chef du service société d'Europe 1 et correspondante à Berlin, ils tombent comme des mouches. Et j'ai mis Eva Rock. Tiens, Eva Rock, je t'ai nommée correspondante à Berlin. Oui. Eve Roger et Hélène Cole vont maintenant s'affronter.
Europe 1.
La méchanceté est-elle socialement utile ? Question qu'Eve Roger s'était posée après avoir rencontré Elie Semoun chez nous.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur, pardon.
Ne pas aimer son prochain est-il au fond si grave ? Un livre pose la question. Eve Roger l'a lu pour nous, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Amanda Sterz est notre invitée cet après-midi pour la sortie de son nouveau roman Lettre d'amour sans le dire. On continue d'en parler. Mais vous le savez, Amanda, ici, l'invité n'est pas seulement invité. Il participe également à éclairer le DRH d'Europe 1 pour savoir qui, parmi les journalistes de la rédac, est un bosseur et qui, au contraire, est un tir au flanc. Voici notre troisième concurrente du jour, l'adjudant-chef Roger, surnom que lui ont donné les journalistes bossant sous son autorité au service société. Aujourd'hui, Eve, vous nous parlez d'un livre qui pose une question à priori. Étonnante, et si penser du mal des autres était au fond une bonne chose. Avant de nous exposer l'idée de ce livre, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes experte en méchanceté puisque vous travaillez avec Eva Rock. Eva qui visiblement la dernière fois n'a pas supporté d'apprendre que vous aviez un jacuzzi chez vous.
Il marche, mais alors l'eau se trouble un peu et donc mon mari a passé la nuit à le vider puis à le re-remplir pour aujourd'hui. Voilà.
J'ai une petite solution, ne faites pas pipi dans le jacuzzi. C'est vrai.
Voilà, donc en matière de mesquinerie, oh, c'était pas vous méchant. Êtes rodé. Mais oui, mais certains ont le droit d'avoir des jacuzzi.
C'est une forme de réalité.
C'est bien payé, chef du service société. Hein.
Bah oui, mieux que moi, hein, je constate.
La mesquinerie c'est une chose, penser du mal des autres, en quoi ça peut être
utile. On a du mal à comprendre.
Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on pense tous du mal des autres. Il n'y a aucune exception.
Non, pas Mathieu Ricard. On l'a reçu l'autre jour. Il est moine bouddhiste. Il pense
mais il a
pas
beaucoup
du
travaillé
mal.
Là-dessus. Lui. Il oui, a passé sa vie à ça. Hein. Donc on dit, est-ce qu'il est moche, il est idiot, il est égoïste, pas Mathieu Ricard. Hein. Superficiel, d'une femme, on dit qu'elle est tatillonne, brouillonne, bavarde, effacée ou l'inverse. Hein. Et c'est profondément humain. Personne n'y échappe parce qu'on sait que ça soude un groupe hein, de dire du mal des autres. Et puis ça nous rassure nous-mêmes sur nos propres qualités. Mais il y a aussi des raisons inconscientes qui nous échappent. Penser du mal des autres, ça a du bon, surtout si on en a conscience.
À quoi ça sert de penser du mal des autres?
Et ben d'abord à nous protéger, parce que à protéger notre système de valeurs qu'on a choisi dès l'enfance. Parce que qu'en fait, quand on est tout petit, quand on naît, et ben on choisit un comportement pour survivre dans ce monde hostile. Donc un comportement de type A ou de type B. Ça se voit dans le film La vie est un enfant tranquille. Soit on est une petite fille sage, soit on est un petit garçon rebelle, et on ne peut pas être l'un et l'autre. Donc forcément, celui qui a un autre comportement que nous, et ben on le déteste. Alors vous remarquez qu'on a tous nos bêtes noires. C'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes défauts qui reviennent chez les autres qu'on déteste. Alors moi, je déteste, par exemple, les arrogants, les prétentieux ou les brutaux. Parce que moi, je me vois empathique, humble et douce. J'ai bien dit, je me vois. Vous hein, voyez, d'autres ne
oui,
supporteront
alors,
pas.
J'ai des témoignages, en revanche, si vous voulez, on peut faire entrer 2-3 journalistes de la rédaction.
Il y a d'autres ne supporteront pas les égoïstes, les manipulateurs ou les paresseux parce qu'ils se voient, eux, généreux, francs et courageux. Donc, on va
être dans
A
l'opposition,
et B,
en fait.
Toujours dans l'opposition.
Amanda, vous, c'est quoi les défauts rédhibitoires pour vous? C'est vraiment ce que vous ne supportez pas chez quelqu'un.
C'est dur. Non, parce que du coup, je me demande quelle qualité je vais me passer.
C'est pas la question que je vous ai posée.
Ah oui, c'est vrai, mais vous avez raison.
Je pense que c'est l'égoïsme.
L'égoïsme.
Voilà, donc ça veut dire que vous tendez à être généreuse. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, alors, contrairement à ce qu'on croit, ces gens qui nous insupportent et dont on pense beaucoup de mal, eh ben, en réalité, c'est qu'il y a une part de nous qui a envie de leur ressembler.
On a envie de ressembler à quelqu'un qui pourtant nous insupporte.
Et ben c'est la révélation de ce livre, ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est que quand on pense du mal de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un, il a quelque chose que moi, je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir. Il sait faire quelque chose que je ne sais pas faire. C'est inconscient, bien sûr. Et pour vous l'expliquer, on va prendre quelques exemples. Alors, le narcissique, il est imbu de lui-même, il est odieux. Mais quelle est la qualité du narcissique? Et ben c'est qu'il a confiance en lui.
Ouais.
Donc, ça veut dire que chez moi, ça résonne. Est-ce que moi, je ne manquerais pas un peu de confiance en moi? Je vous donne un autre exemple. Le râleur. C'est quoi le côté positif du râleur?
Alors là, le côté positif
du
râleur...
Il ne se laisse pas faire. Non, c'est ça?
Bah non.
Il dit ce qu'il pense. Il exprime sa frustration. Donc au fond, est-ce que moi, je ne suis pas un peu bonne poire? Est-ce que je ne suis pas toujours un peu trop gentille? Est-ce que je sais dire ce que je pense?
Mais ça, ce n'est pas pareil. C'est s'affirmer. C'est autre chose qu'être râleur. Moi, je suis râleur, par exemple. Ça ne sert à rien. Mais ça n'a d'intérêt pour personne, surtout pas pour les gens qui vivent avec vous.
C'est, pas
c'est bien, vous grandissez en fait, au fur et à mesure des années. Hein.
Mais râleur, je constate. Comment, râler, ça peut être une qualité.
Et c'est côté, chercher non, le côté positif du défaut.
Oui.
Le brutal, par exemple. Qu'est-ce que,
Le brutal a une qualité.
Mais bien sûr, il est direct.
Le boxeur.
Il est direct.
Ah
il passe pas par quatre chemins pour dire les choses.
Il gifle directement.
Voilà. Directement, il y a pas de.
La question, c'est est-ce que ça veut dire ça renvoie à moi-même? C'est est-ce que moi je mets pas un peu trop de gants? Est-ce que je mets pas un peu trop de mots pour dire les choses au lieu d'aller plus directement au fait?
Mais une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, au lieu, on va essayer d'acquérir le côté positif du défaut, justement. Alors donc, on reprend un dernier exemple. Je trouve quelqu'un qui est froid et distant, alors que moi, je me sens chaleureuse. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a la qualité de celui qui est froid et distant? Il ne se laisse pas envahir par les autres. Il sait justement garder les distances. Donc, moi,
il ne va pas choper le coronavirus.
Voilà, par exemple. Et ben, moi, mon objectif, c'est d'à la fois garder mon côté chaleureux, mais aussi d'acquérir un côté un peu « je ne me laisse pas envahir par les autres ». Donc, regarder les défauts des autres, c'est essayer d'acquérir le côté positif de leurs défauts. Et c'est la leçon de ce livre.
Je comprends ce que vous dites, mais il y a un truc que je n'arrive pas à ressentir en moi, je ne sais pas vous, Amanda, mais c'est de penser à quelqu'un qu'on déteste et de voir en quoi... Mais non, mais je ne vois pas qui je déteste.
Bon, non, Mathieu.
Pas, non, mais vraiment.
Puis, non, mais ce n'est pas forcément quelqu'un que vous détestez, c'est les défauts que vous retrouvez chez les autres. Voilà.
Bon, écoutez, je vais y réfléchir en antenne et je vous transmettrai mon analyse là-dessus. Amanda, ça vous inspire quelque chose, cette analyse des défauts des autres?
Ça me donne envie de manger une pizza au bretzel.
C'était la meilleure réponse.
Europe 1.
À suivre, romancière à succès, scénariste extrêmement demandée, qui est vraiment Amanda Sterz? Je vais tenter de recueillir ses confidences. Et entre nous, Amanda, mieux vaut vous confier à moi qu'à Eva. Au moins, moi, je ne répands pas ensuite vos confidences dans tout Paris. Franchement, Eva, c'est gênant vis-à-vis d'Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, qui vous avait confié cette information sous le sceau du secret hier.
Mais il est allé batifoler dans l'herbe avec sa fiancée. Et il a chopé la tique là où il faut pas et il a failli mourir.
Voyez Amanda, vous serez mieux lotis avec moi. On continue de parler de votre dernier
c'est
roman.
C'est pas du tout Olivier Pouls, ne dites pas ça quoi.
Ouais, j'ai voulu vous sauver la mise en inventant Olivier Pouls parce que l'autre peut se reconnaître facilement. Mais... je pense. Que... le nombre de mecs dans Paris qui ont chopé un petit.
Allez-y, continuez.
On l'embrasse. En même temps, il est bien placé pour se soigner. Tout de suite, on écoute Bad, Michael Jackson sur Europe 1. I'm telling you, gonna how I feel, gonna get your mind, don't you dare, jump on, jump on, get on me, alright, I'm giving you, on count three, just show yourself, or let it be, I'm telling you, just watch your mouth. C'était Michael Jackson et c'était toute ma jeunesse sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Un exutoire pour vos zygomatiques, un shot de Red Bull pour vos neurones. Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de bonne humeur pour booster votre culture G, 2 heures aussi pour apprendre à mieux connaître une personnalité et vice-versa, car je le dis sans fausse modestie, la plupart de nos invités ressortent du studio assez ravis et surtout épatés par ma performance, comme Michel Larocque dernièrement.
On a tellement ri, j'aime tellement rire et il me fait vraiment rire.
Bon là, elle parlait de Pierre Palmade, mais elle pense peu ou prou la même chose que moi, certainement si on lui posait la question. Aujourd'hui, c'est Amanda Sterz qui nous accompagne. Vous êtes écrivaine, mais aussi réalisatrice, scénariste à succès. Je crois que vous vous apprêtiez à partir en Italie pour l'adaptation de votre roman Les Promesses, quand tout a été annulé à cause de l'épidémie.
Oui, je devais tourner pendant l'été.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On sait que ce que se représente le tournage d'un film.
Normalement, on tourne au printemps prochain, donc un gros décalage. Mais il a fallu changer beaucoup de choses, dont la distribution transition, on est en plein, ouais, on est en train de tout changer.
Qu'est-ce que vous changez concrètement au film à cause du Covid ?
Je change mon acteur principal.
Ah, c'est vrai ? Ouais. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne veut plus tourner ?
Non, c'est parce qu'il ne veut plus, mais c'était pour une star internationale, ouais, qui a tellement de tournages les uns après les autres, oui, que le mien, qui était une récréation parce qu'il a des très gros tournages, devient voilà, la chose qui part en premier de son planning.
Et est-ce qu'avec les assurances, ça vous complique la vie ? C'est-à-dire qu'on a du mal à assurer les tournages, il faut prendre des précautions sanitaires en plus pour les comédiens notamment et pour l'ensemble de l'équipe.
Je pense que il faut savoir que aujourd'hui il y a des obligations qui seront peut-être pas là dans,
et oui, c'est ça,
voilà,
ouais,
au printemps, ce qu'on espère. C'est aussi pour ça qu'on a décalé autant. Donc aujourd'hui, les gens qui reprennent les tournages, oui, ils changent carrément les, ils réécrivent, oui, les scènes où il y a plein de figurants.
Par exemple,
avec un test pour les, avant. Pour les gens qui sont pas remplaçables entre guillemets, donc les acteurs et le réalisateur, on a une série de tests, peut-être qu'ils vont nous faire rester sur place pour être sûr qu'on puisse pas tomber malade, etc. Donc oui, il y a beaucoup de problèmes,
ouais,
et surtout ça rajoute beaucoup d'argent qu'on n'a pas forcément. Donc il valait mieux attendre et voilà, on espère que ça ira mieux au printemps prochain.
Il lui faut de l'argent. Achetez son livre. Lettre d'amour sans le dire vient de sortir chez Grasset. Amanda Ster passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Quand elle avait signé son contrat de correspondante Europe 1 à Berlin, Hélène Kohl pensait que le programme de la capitale allemande serait...
Sexe et drogue.
Elle a découvert au fil des années que c'était un triptyque. Sexe, drogue et calories. Car vous allez voir, on a tort de croire que l'Allemagne n'est pas une terre gastronomique.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
La romancière et scénariste Amanda Sterz est avec nous cet après-midi pour évoquer son dernier roman, Lettre d'amour sans le dire. Alors qu'on va partir à Berlin retrouver notre correspondante en Allemagne, un mot, Amanda, de votre trajectoire personnelle. Vous vivez aujourd'hui, si j'ai bien compris, entre la France et les États-Unis. Vous avez ressenti à un moment de votre vie le besoin de vous éloigner de la France ?
Un mélange, un besoin de m'éloigner, mais aussi pour des raisons professionnelles. J'ai commencé à tourner des films en anglais. C'était quand même plus simple d'être là-bas, à Los Angeles. Voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, mon cœur balance entre les deux pays.
Vous pensez vous établir dans un des deux pays à terme ou vous pensez toujours faire la navette entre les deux ? C'est agréable d'avoir un pied de chaque côté de l'Atlantique.
C'est pas si simple, mais c'est un peu loin. Oui. J'ai des enfants grands. L'aîné, qui a 16 ans, va partir à l'université aux États-Unis, là, en août. Du coup, je m'imagine pas être si loin de lui. Oui. Donc, je pense qu'en tout cas, pour quelques temps, avec son petit frère, on sera à Los Angeles. Et puis, on verra une fois que le petit sera grand aussi. Voilà. Donc, dans 3 ans, quand les deux commenceront leur vie sans maman, je réfléchirai à où je veux être. Ce qui est sûr, c'est qu'à Paris, c'est compliqué pour moi.
J'ai cru que
pas Paris.
Si, j'ai cru que vous diriez si Donald Trump est réélu, c'est sûr.
Si Donald Trump est réélu... je pense qu'il faut quitter la planète. C'est le problème du président des États-Unis, c'est qu'il a un impact sur le monde entier. J'ai bien peur que ce soit une possibilité.
Ouais.
Alors Amanda, je vous propose maintenant de prendre la direction de l'Allemagne, retrouver la plus délurée des journalistes européens, notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl. Aussi connue pour ses papiers que pour ses folles soirées dont je rappelle la devise.
Tout ce qui se passe à l'intérieur reste à l'intérieur, personne n'en saura jamais rien.
Hélène, après les émotions nocturnes la dernière fois, vous nous parlez cet après-midi d'une émotion culinaire, ça existe en Allemagne.
Oui, effectivement, je voudrais vous parler de la Brizza, un mélange bretzel et pizza. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'il a quand même fallu attendre 2020 pour voir apparaître cet hybride de la cuisine mondialisée. Puisque sur le principe, en fait, c'est pas idiot, hein, la pâte qui sert à fabriquer les gros bretzel moelleux en Allemagne, elle est déjà utilisée pour faire des petits pains ou des croissants et ça marche pas mal, c'est croustillant au-dessus et puis assez blanc au cœur, ça gonfle bien, donc pour faire un fond de pizza, pourquoi pas ? Mais Jennifer et Sacha Zeller, le frère et la sœur qui tiennent le restaurant.
C'est une autre trajectoire. L'un a décidé de devenir une star de l'écriture, les autres d'inventer la pizza pretzel. C'est deux voies.
Exactement. Alors eux, ils tiennent le restaurant Wurstbendel dans le nord de la Bavière et ils ont poussé le concept vraiment loin parce que sur leur Brizza, pas de sauce tomate, mais la fameuse moutarde sucrée bavaroise et surtout des tranches de saucisse blanche typique de Munich, la Weisswurst. Alors en bavard, on dit Weisswurst. Alors, vous pouvez aussi avoir une brizza avec un supplément asperge, puisque les Allemands, vous le savez maintenant,
quelle
après une
idée
de mes chroniques, adorent les asperges, ou bien une version avec de la choucroute.
Et pourquoi est-ce que ça a mis l'Allemagne en émoi ?
Alors, il y a ceux qui d'abord ont crié au génie.
Le terme ne paraît pas galvaudé, effectivement.
Voilà. Et puis, il y a les puristes, parce que cette fameuse saucisse blanche, normalement, elle n'est jamais servie en tranches. La tradition veut qu'on la mange en l'aspirant par les extrémités. Et en plus, il faut savoir que les deux restaurateurs viennent du nord de la Bavière, c'est la région de la Franconie, qui historiquement ne fait pas partie de la Bavière. Alors les régionalistes dénoncent une appropriation culturelle.
Oh là là.
Il n'y a jamais eu autant de passion. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est drôle tous ces passions, parce que quand une célèbre marque de pizza surgelée avait lancé il y a quelques années la pizza kebab, il n'y avait pas eu autant de débats. Car oui, les Allemands ne sont pas à leur premier coup d'essai. Ce sont les rois du métissage culinaire. Ils adorent revisiter les classiques comme notre bonne vieille baguette, hein, qu'ils s'évertuent à vouloir servir frottée d'ail et recouverte de fromage râpé, le tout gratiné avec un petit drapeau français planté dessus, comme ça, ça fait authentique. Vous voyez,
bah, c'est pas très français, mais moi, ça me fait envie.
Oh,
et pourtant, après toutes ces années en Allemagne, vous, Hélène, vous nous dites qu'il y a des alliances qui méritent d'être explorées.
Alors, tout à fait. Alors, par exemple, les mouillettes pour les œufs à la coque. Il faut savoir que les Allemands ne trempent généralement absolument rien, ni dans leur soupe, ni dans leur café, ni dans leurs œufs. De toute façon, c'est impossible de trouver une bonne baguette ici. Et donc, il a fallu improviser. Et je vous donne donc ma solution franco-allemande, testée et approuvée, les mouillettes faites avec du bretzel. Donc voilà, avec les bretzel. Parce que
vous êtes passé du côté obscur de
la sauce. Non. Vous brisez ces jolies courbes. Vous voyez, le bretzel, il est tout rond comme ça. Et cette forme allongée, elle s'adapte parfaitement à la trempette dans l'œuf à la coque. En plus, certains bretzels sont vendus garnis de beurre à l'intérieur, donc on touche quand même la perfection de la mouillette. Et autre métissage assez convaincant, ce sont les fromages français avec les pains allemands. Parce que, bon, alors en France, on sait qu'il y a, je crois que le Centre National Interprofessionnel de l'Industrie Laitière dit qu'il y a 1200 sortes de fromages différents en France. Et bien, il faut savoir qu'en Allemagne, elle propose 3200 sortes de pains.
Et pain donc, qui est mangeable. C'est ça qui est quand même incroyable avec les Allemands, quoi. C'est fou.
Alors, justement, il y a quand même de quoi jouer avec les saveurs dans un bel esprit de rapprochement entre les peuples. Par exemple, je recommande le Roquefort avec le Pumpernickel bien noir. Ça marche très, très bien. Et ça serait d'ailleurs la revanche de ce petit pain compact avec un petit goût de chocolat derrière. Parce qu'on raconte que pendant la campagne militaire de Napoléon en Westphalie, les soldats français, comme vous, ont trouvé ce pain vraiment très mauvais. Ils disaient qu'il était juste bon pour nickel. Et nickel, c'était le cheval de Napoléon. Et donc, ce bon pour nickel est devenu dans la bouche des Allemands un pumpernickel et un pumpernickel. C'est le mot qu'on retient toujours aujourd'hui.
Incroyable. L'origine des expressions, même allemandes. Merci. Mais dites-moi, ma chère Hélène, on parlait tout à l'heure des kilos pris pendant le confinement. Vous, avec ce menu dont vous venez de nous parler aujourd'hui, vous en êtes bien sorti là, ça va? Vous rentrez dans vos jeans?
L'avantage, c'est qu'à Berlin, on n'a pas été confiné de manière stricte, on a toujours eu le droit de sortir et donc de faire du sport.
Et c'est ça qui vous a sauvé.
Tout va bien.
Effectivement. Voilà. Merci Hélène Cole. Amanda Sterz, est-ce que dans votre roman Lettre d'amour sans le dire, le dorayaki, la délicate pâtisserie japonaise, aurait pu être remplacé par une brizza ou bien ça aurait cassé un peu l'effet du livre?
Pas sûr que ça aurait eu la même émotion. Mais,
et ouais. Si ma sœur avait été allemand? Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu.
Ça aurait été vraiment notre livre. Merci Hélène Cole.
Europe 1.
Lui, si d'aventure quelqu'un s'avisait de lui servir un jour une brizza, croyez-moi qu'il serait bien reçu.
Tu te fous de ma gueule? Ça va bien une connerie maintenant.
Olivier Pouls, notre fin gastronome, arrive pour votre recette de dernière minute, simple mais coquine comme Eva. Félix in extremis, à suivre.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Aujourd'hui, c'est Amanda Sterz qui nous accompagne pour fêter la sortie de son dernier roman, Lettre d'amour sans le dire, chez Grasset. Et quoi de mieux qu'un bon roman pour oublier qu'une pandémie mondiale a balayé tous nos projets à court terme, comme ses vacances à Djerba qu'avait prévu Eva Rock.
J'aurais pu être au club Méditerranée.
Oui.
J'aurais rencontré quelqu'un qui aurait été super gentil
oui,
avec
Eva.
Toi. Avec qui j'aurais fait du tir à l'arc.
Oui.
Avec qui j'aurais fait la plongée sous-marine.
Oui.
On aurait vécu quelque Certainement. Chose de très bon.
Certainement, Eva. Mais voyez le bon côté des choses. Vous rencontrez Amanda Sterz en vrai.
Ah, génial.
Oh, pas bonne actrice.
Moi,
Amanda, je suis très heureux de vous rencontrer. Moi, je suis très heureux.
Quel escroc.
On en a parlé un petit peu tout à l'heure de vos deux enfants. J'ai lu que l'aîné s'orientait plutôt vers la médecine et le second vers les sciences politiques. Est-ce que vous les avez mis en garde sur la précarité du métier artistique de leurs parents? C'est pour ça qu'ils ont choisi des voies plus sérieuses, entre guillemets.
Alors, ils ont des choses très artistique en eux,
ouais.
Mais c'est pas leur pas forcément leur vocation. Peut-être le second. Enfin, je disais qu'il adore les sciences politiques, mais il est troisième, donc on a
il
le temps.
Il a encore le temps.
Oui, j'ai toujours tenu à ce qu'ils travaillent bien à l'école parce que j'avais un petit problème avec ces enfants d'eux qui avait cette espèce de voie toute tracée, comme si c'était systématique. Et je pense que le fait d'être artiste, ça vient d'une faille, d'une urgence. Et ce sont des enfants qui ont été plutôt heureux et construits. Et je ne suis pas sûre qu'ils aient cette urgence-là. Et je suis ravie qu'ils ne se dirigent pas, en tout cas, vers la même voie, parce que je pense que c'est très douloureux, surtout quand on a des parents qui ont réussi dans leur domaine, de vouloir reproduire. Donc, tant mieux que mon fils aîné, Oscar, se dirige vers la médecine. Je trouve ça formidable.
Et est-ce que vous, à quel âge vous avez su que vous vouliez être écrivain ?
Toujours.
Toujours ?
Toujours, j'ai su avant d'écrire.
Avant d'écrire ?
Ah oui ?
Ouais. Je savais.
Vous arrivez à vous en souvenir, enfin, du moment charnière ?
J'ai écrit rapidement des petites choses, mais c'était en moi. Je l'ai toujours dit.
Et vos parents, ils vous encourageaient à l'être ? Ou ils vous disaient, attention, écrivain, pour gagner sa vie, c'est pas simple ?
Sans le formuler avec ces mots, je pense que pour eux, c'était un peu abstrait. Et puis, ils ont vu ce désir se prolonger. Mais oui, ils avaient peur que j'y arrive jamais.
C'est compliqué. Hein.
Oui, et vous y êtes arrivé plutôt pas mal. Hein,
on va dire.
Lettre d'amour sans le dire. Je ne vous ai pas senti très attiré par la brezza, c'est ça
La
brezza. Est-ce que vous êtes une bonne vivante?
Oui.
Oui.
Ouais, c'est justement pour ça que je n'ai pas été attirée par les spécialités culinaires allemandes. Voilà.
Par contre, vous parlez de pâtisserie dans ce livre, une pâtisserie japonaise qui est au cœur de ce roman que je vous invite à découvrir. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit doué en pâtisserie japonaise. En revanche, sur les accords 20 tapas, il est le roi. La rubrique qui suit va vous plaire.
Europe 1.
Tiens, Eva, puisqu'on se dirige tout droit vers notre rubrique gastronomique, une petite question. Qu'est-ce qui est pire que la mort par strangulation ?
De l'ananas sur une pizza.
Bonne réponse.
Ah oui, c'est vraiment.
Évitez les fautes de goût en cuisine. Écoutez Délices in Extremis, la recette dernière minute de notre expert Olivier Pouls. Ça sera juste après Boulevard Désert, si la vie avance sur Europe 1.
Le temps filé, c'est tout, on respire malgré nous, on fait bien comme on peut. On parle encore avant que d'être mort, on fait bien de son mieux. Ils disaient que la vie c'est des terrasses et puis du soleil des fins du jour. Ils disaient que les rêves c'est la prose de la vie, qu'il faut y croire toujours. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Disait qu'à son âge c'est l'heure d'aller au nuage, le sourire jusqu'au bout. Il disait chaque fois que tout disparaîtra, disparaîtra à son tour. Le ciel et puis la terre, nos enfants et nos pères et puis nous au milieu. La vie c'est pas grand chose, des rêves et de la prose, mais fais-en ce que tu veux. Avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour.
La vie avance, c'était Boulevard Désert sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Plus l'été approche et plus l'envie d'apéro grandit en nous. Et hélas, plus l'été approche, plus Olivier Pouls, notre expert gastronomique, laisse libre cours à des idées qui n'ont pas leur place dans une émission grand public et familiale comme la nôtre.
Mais le barbecue nu, une vraie tendance, hein.
Mais non, Olivier. En plus, Alain Dastère, notre invité, ne vous connaît pas. C'est donc habillé que nous voudrions votre apéro.
Oui, surtout Olivier. Avec le temps qu'il fait, on a remis une petite laine. Hein.
Oui, ouais. C'était le thème de votre semaine. Les apéros.
Oui, mais on peut faire des apéros à l'intérieur aussi. On n'est pas obligé d'être à l'extérieur. Et on peut faire des apéros habillés.
Rien ne vous arrête, Olivier. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors ?
Direction l'Espagne, qui est quand même un pays qui incarne pour moi vraiment l'apéro avec l'ambiance des tapas. Hein. Vous imaginez dans un petit bar à tapas du côté de San Sébastien ou de Madrid.
Où on respecte Barcelona. Bien la distanciation sociale, c'est facile.
Voilà, exactement. Ouais. On fraternise. On rencontre des gens et on grignote ces petites tapas délicieuses. Et moi, parmi ces tapas, il y en a une que j'adore particulièrement, qui me rend dingue, pour être honnête.
Ah bon ?
Oui, ce sont, écoutez avec l'accent, las croquetas de jamón.
Las croquetas, la meilleure chose au monde.
Eh bien voilà,
j'ai peur de ne pas connaître. Comment puis-je ne pas connaître, sachant que je passe mes étés avec vous ?
Les croquettes de jambon.
Eh bien, tu m'as jamais fait ça ?
Eh bien, on va réparer ça très rapidement. Alors, il y en a qui le font à la purée, mais j'ai encore une meilleure recette.
Alors, vas-y.
Alors, on va partir sur la base d'une béchamel. Une béchamel bien ferme. Donc, du beurre et de la farine. Alors, pour bien la raffermir, je mets à peu près 30 g de beurre, 60 g de farine. On fait fondre le beurre, on rajoute la farine, on mélange, on cuit bien. Parce que le goût de farine pas cuite, c'est pas très bon. Donc, on cuit bien. On mouille ensuite avec du lait, 1 ml de lait. On rajoute un peu de fromage râpé. Hélas, Eva, 150 g. Un fromage râpé, un comté, par exemple, ce qu'on veut.
Un vieux comté
Non. Un jeune comté, il ne faut pas trop marquer avec
comté, voilà.
Ça va donner aussi de la texture à la croquette. Cette petite préparation qu'on aura salée et poivrée, on va la laisser reposer 2 heures au frigo parce qu'il faut qu'elle durcisse. Ensuite, l'opération consiste à soit faire des petites boulettes, soit faire des croquettes. Donc, on va faire un boudin. Alors là, c'est très simple. Une grande feuille de papier film. On vient mettre la préparation au milieu. Et puis, vous savez, on tourne les deux bouts de manière à former un joli boudin qu'on va ensuite couper en tronçons. Il ne reste plus qu'à faire une panure à l'anglaise. Très simple. Hein. Farine, œufs battus et chapelure. Et ensuite, on frit ça dans une huile à 180 degrés.
Et le jambon, il est où ?
Le jambon, on l'a mis évidemment coupé en petits morceaux dans la préparation, évidemment. Merci de me le rappeler. Alors, évidemment, du jambon espagnol. Un petit morceau de jambon espagnol qu'on a demandé découpé dans l'épaisseur. On en a fait des petits dés. On l'a mis évidemment dans la préparation avant de la mettre au frais.
Je crois que je vais faire la recette d'Amanda Stars avec de la purée plutôt que la
franchement,
béchamel.
Alors c'est meilleur avec la béchamel. J'ai goûté les deux. J'ai goûté les deux. Mais c'est plus simple à faire avec de la purée.
Ah oui.
Je ne sais pas le faire comme ça, mais quand j'en mange avec de la béchamel, je trouve ça meilleur.
Parce qu'avec la béchamel, une fois que la croquette est la cuite, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, l'extérieur est devenu tout à fait croustillant. Et quand on la croque ou quand on la coupe, le milieu se met à couler. Et ça, c'est vraiment magique.
Il y a une excitation dans l'œil quand il parle de croquettes de jambon. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a que vous pour parler comme ça de croquettes de jambon, Olivier. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Le moment qui approche est si romanesque. Le regard noir du perdant, la jubilation enfantine de celui qui l'emportera. Dans une poignée de secondes, nous connaîtrons le nom du chroniqueur du jour. Ève Roger, qu'est-ce que vous retiendrez de cette émission ?
C'est pas mal cuisiner nu. Hein.
À tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Amanda Sterz était notre invitée d'honneur cet après-midi pour son nouveau roman « Lettre d'amour sans le dire » et c'est certainement à regret qu'elle va me quitter car franchement, sans me vanter, je crois pouvoir dire qu'à ce stade de l'émission, l'invité et moi, on est souvent devenus complices, comme avec Cadmerad la dernière fois, qui m'adore.
Alors Cadmerad, vous me connaissez un peu, vous savez que je suis un grand cinéphile, alors il y a les...
Un grand con surtout.
Je vous rassure Amanda, vu son état à l'issue de l'enregistrement...
Décalé Qatar. Oh,
il avait évidemment quand même passé un bon moment.
Pouls était passé par là
pour une dégustation de vin. C'est maintenant que tout se joue, les amis. Le kit ou double. Vous avez chacun 10 secondes pour nous expliquer pourquoi vous êtes le meilleur journaliste d'Europe 1. Hélène Cole, avec votre Britza, est-ce que vous pensez que vous l'emportez ?
Eh bien écoutez, Ève Roger nous a expliqué dans sa chronique que lorsqu'on dit du mal de quelqu'un, c'est parce qu'au fond on est un petit peu jaloux. Donc vu le niveau de German bashing dans cette émission, je me demande au fond si vous n'avez pas en fait tous envie de débouler en Bavière cet été pour goûter cette Britza révolutionnaire. Et puis en plus, vous avez eu le droit à une anecdote sur Napoléon pour votre culture générale. Donc je crois que j'ai rempli la mission du jour.
On a envie de venir vous voir pour travailler notre summer body à base de pretzel. Lionel Gougelot, pourquoi voter c'était pour vous et votre belle histoire d'une mère transgenre dans le Nord?
Eh bien, tout simplement parce que sur Europe 1, on regarde, on écoute le monde changer. Et l'élection de Marie est un joli symbole de l'évolution, oui, de l'ouverture des mentalités et de ce que le monde est justement en train de changer. Donc, votez pour moi ou plutôt votez pour moi.
Ok, Malraux. Donc, toi, t'as choisi de jouer la carte corporate. On a bien compris. Oui. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous et votre sujet Laurent Cabrol aujourd'hui?
Parce qu'en l'honneur de votre dernier livre, Amanda Sterz, qui parle du Japon, eh ben, j'ai évoqué le soleil levant, la canicule, l'été qui arrive.
Oh, Dieu.
L'été sera chaud, c'est pas une bonne nouvelle pour la planète, mais au moins vous êtes prévenus.
Du lien le plus pourri de l'histoire. Et Roger, enfin, pourquoi voter pour vous?
Eh bien, moi aussi, je vais faire la carte de la flagornerie.
Ça m'étonne de vous.
Grâce à ce livre, j'ai réussi à découvrir que des qualités chez les gens. Chez notre invité, j'ai découvert trois qualités. Elle est humble, elle est douce, elle est déterminée.
Eh bien, c'est bon, pourquoi pas. La flagornerie, ça peut marcher, ça marche un coup sur deux.
Ouais.
Alors, c'est le moment de découvrir, Eva, le choix de nos auditeurs.
Mais ils sont fans d'Anne Le Gall et des sujets environnementaux, donc c'est deux points pour Anne.
C'est deux points pour Anne Le Gall qui donc maintient son avance en tête du classement général à quelques jours de la fin. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Ève Roger, puisqu'elle a réussi à me faire passer un message que j'étais à la fois égocentrique, insupportable, mais en même temps que c'était pas très grave. Vous le savez, ici les amis, c'est l'invité qui décide, puisque l'invité dispose de 3 points. Amanda Sterz, à qui allez-vous donner ces 3 points aujourd'hui?
C'est très violent parce que j'ai déjà une complicité qui est née avec cette femme, mais parce que je pense qu'il faut aller vers les belles choses, même si évidemment c'est important de savoir que le climat change et qu'il faut agir. Je donne mon point à Lionel parce que je trouve ça formidable, cette élection et cette représentation sociale qui évolue, les mentalités qui changent. Voilà, donc j'ai hâte que cette mairesse se présente aux élections présidentielles.
Eh oui, il avait perdu avec la Confinews, il gagne avec son sujet du jour. C'était la 186e journée de l'équipée sauvage. On remercie Amanda Sterz. On vous recommande vivement son dernier roman avec Eva. C'est très
magnifique,
bien écrit, c'est très beau.
Très beau.
Et puis ça parle surtout à tout le monde. On a tous vécu des histoires, et parfois des histoires d'amour non dites comme ça. C'est très beau. Lettre d'amour sans le dire chez Grasset. Je remercie mes équipiers du jour, Eva Rock, Ève Roger, Anne Le Gall, Hélène Coll, notre gagnant Lionel Gougelot et Olivier Pouls, Romain Causeur et Christophe Piron en régie. Mes télétravailleurs de l'ombre aussi, Philippe Amardet, Claire Dutronc, Oriane Lévy et Sébastien Bordenave. L'équipe est sauvage, revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir.